bienvenue dans le podcast Business Club, le podcast du business sportif, marketing, opérations de com, entrepreneuriat. Nous allons passer en revue toutes les opérations de nos invités dans cette industrie. Athlètes en activité, sportifs reconvertis, chefs d'entreprise et toute personnalité gravitant autour de l'univers du sport business. Bonjour à tous, qui dit mercredi dit Business Club. On se retrouve pour un nouvel épisode. Et notre invité du jour se nomme Guillaume Serfati. Il est cofondateur et directeur général de la société Act for Sport. Comment tu vas, Guillaume ?
Ben ça va très bien, merci. Et toi ?
Ça va super, ça va super. Merci d'avoir accepté notre invitation. Avant de commencer à parler Act for Sport, j'aimerais que tu te présentes un peu plus en profondeur et parler de ton parcours jusqu'à la création d'Act for Sport, justement.
Très bien, eh ben, écoute, j'ai 36 ans depuis peu, un enfant, j'ai cofondé effectivement Act for Sport et c'est une sorte de suite logique de mon parcours dans les médias puisque j'ai commencé donc à travailler chez Fuse dans le brand content en début de carrière, au tout début de ma carrière et progressivement j'ai commencé à me rendre compte un petit peu de l'impact que pouvaient avoir les marques dans la société, et puis en termes de communication, ce qu'on pouvait imaginer comme communication engagée. Et puis progressivement, je suis parti chez Deezer, où j'ai créé la cellule Brand Content, et on commercialisait véritablement l'espace publicitaire Brand Content pour les marques. Et ça m'a, toutes ces expériences-là m'ont donné l'idée de créer Act for Sport quelques années plus tard.
Ok. Au-delà de ces expériences qui t'ont donné cette idée-là, Quand tu as voulu créer Act for Sport, à quel besoin tu t'es dit que tu allais répondre ?
Alors en fait, c'est effectivement ça, ça va même plus loin. C'est deux constats qu'on a fait. En fait, j'ai travaillé en job étudiant pendant pas mal d'années sur le Tour de France et j'ai rencontré Michael Bard qui avait créé la Centrale du Sport. Et puis on échangeait régulièrement quand moi j'étais chez Deezer. Et lui, il me disait, les clubs de sport amateurs sont en train de vraiment, vraiment être dans de grandes difficultés financières, économiques. Et donc, il fallait les aider à repenser leur modèle. Et puis, de l'autre côté, moi, j'étais au contact de marques, d'agences au quotidien qui me disaient à peu près tout le même discours. On voudrait faire de la communication locale. Si on peut faire de la RSE, de la communication engagée, tant mieux. Si on peut créer de la proximité, du lien avec les gens, c'est encore mieux. Toutes ces choses-là, on les avait en tête, mais quels sont les moyens qui s'offraient à nous ? Finalement, peut-être pas grand-chose. Et donc, du coup, ce double constat a fait naître cette idée de se dire, mais si demain, on permet aux marques de venir soutenir un écosystème de clubs amateurs en leur offrant des équipements sur lesquels ils vont s'afficher, et puis en leur demandant de créer du contenu, très rapidement, effectivement, j'ai eu la conviction, en tout cas immédiatement, que ça pouvait fonctionner et que ça allait pouvoir plaire aux annonceurs. Et donc, c'est comme c'est double constat, finalement, c'est aider les clubs et aider les marques qu'on a lancé avec Force Sport.
Ok. Et là, tu nous parles des difficultés financières aussi des clubs, mais au niveau de la recherche de sponsors, quelles sont les principales difficultés de ces clubs-là ? Pourquoi il faut passer forcément par une plateforme comme vous ? Qu'est-ce qui fait qu'un club se dirige vers vous
En fait, on a une solution parmi tant d'autres. C'est-à-dire que nous, on ne veut surtout pas remplacer la personne au sein du club qui va créer du sponsoring, qui va venir chercher des acteurs locaux. Et de la même manière, et ta question, elle est pertinente, puisqu'on ne veut surtout pas supprimer le sponsoring local. C'est-à-dire que dans chacune de nos opérations, on va permettre au club d'associer sur son maillot d'autres sponsors. Je prends un exemple très concret. Avec Groupama, on sponsorise 130 clubs de cyclisme par an. Partout en France. Et sur les maillots qu'on va fabriquer, il y a 13 emplacements, si je ne me dis 13 emplacements, qui sont disponibles pour les clubs pour pouvoir y mettre les logos des partenaires locaux. Alors évidemment, on interdit les concurrents directs. On ne va pas pouvoir mettre une assurance sur un maillot Groupama. Mais à part ça, on va mettre la boulangerie, le magasin de réparation de vélo, etc. Tout ça, c'est autorisé. Parce qu'en fait, nous, notre objectif chez Act for Sport, c'est que la saison d'après, le budget du club soit inchangé. Mais il n'est pas cette dépense pour les équipements à faire.
Ok. Et le sponsoring, il s'articule qu'autour des équipements
Alors, chez nous, oui. Et puis, je reviendrai un petit peu plus en profondeur sur ta question d'avant, parce que je n'ai pas totalement répondu. Chez nous, oui, ça s'articule essentiellement autour des équipements sportifs. Pour deux raisons. La première, c'est parce que c'est là où on peut le mieux identifier le sponsor, okay, le plus facilement et le plus naturellement. Dans le sport pro, on a l'habitude de voir les maillots des joueurs avec le logo du partenaire, donc c'est quelque chose d'hyper naturel. On ne vient pas changer quelque chose dans cet écosystème. Et puis aussi, on ne voulait pas proposer des sommes d'argent au club parce qu'en fait, notre objectif, c'est vraiment d'essayer de soutenir un maximum de clubs. Il y a un moment où il faut aussi maîtriser un petit peu ce qui se passe. Les va-et-vient d'argent, on n'est pas une banque, on n'avait pas envie de gérer ce genre de choses. Donc voilà, on s'est vraiment focalisé sur l'équipement. Et pour revenir simplement sur ta question sur comment ça se passe le sponsoring en local, effectivement, il n'y a pas que nous, il y a d'autres plateformes. Nous, on vient pour proposer des annonceurs effectivement nationaux, voire internationaux. Je prends l'exemple de Big Mat, aujourd'hui, c'est 7 pays d'Europe où on va sponsoriser des clubs. Mais il existe d'autres solutions pour trouver des sponsors. Bah, d'abord, se renseigner quand on a un club de sport amateur, essayer de comprendre comment on peut draguer entre guillemets un sponsor. Il y a également l'aspect réseaux sociaux qui est hyper important pour un club. Un club qui va bien gérer ses réseaux sociaux, qui va créer du contenu régulièrement, qui va faire en sorte de créer une vraie communauté, va pouvoir accentuer
Attirer
sa
des
visibilité
sponsors.
et donc attirer plus de sponsors.
Là, par exemple, tu nous donnes des solutions pour un club pour trouver des sponsors, etc. Est-ce que votre offre, elle s'arrête à la mise en relation de sponsors et des clubs, ou il y a aussi de l'accompagnement, par exemple, pour ces clubs-là?
Alors, en fait, nous, on joue plutôt du côté de l'annonceur, dans le sens qu'on vient créer une véritable offre publicitaire pour le sponsor. Mais on va aussi accompagner le club dans cette même direction. En fait, l'idée, c'est de faire en sorte qu'il y ait une communauté qui se crée autour de l'annonceur. Donc, nos opérations, elles se passent en trois grandes étapes qu'on a appelées des médias. Le premier média, c'est le digital, où on va lancer une opération en digital. On va lancer un site web qu'on va médiatiser sur des sites spécialisés, sur de la médiatisation très niche qui permet de toucher les présidents de clubs, les bénévoles, etc. Et les clubs vont s'inscrire à notre opération. Pour te donner un ordre de grandeur, on a fait une campagne absolument exceptionnelle avec Uber Eats, où on a eu plus de 13 000 inscriptions. Plus de ça, ça
On
représente
allait en
presque.
parler par la suite, mais
Comment?
on allait en parler par la
Ok.
suite, mais il n'y a pas de souci.
Et presque 7 000 clubs uniques qui se sont inscrits à l'opération. Quand on sait qu'il y a 14 000 clubs en France, c'est énorme. Et donc les clubs s'inscrivent sur cette plateforme. Et une fois que leur sélection, que leur inscription est finalisée, nous, notre technologie va nous permettre de présélectionner les clubs. Et ces clubs présélectionnés, on va les appeler pour essayer de trouver l'essence de leur histoire, pour essayer de comprendre est-ce qu'ils ont une valeur ajoutée qu'on pourrait mettre en place dans le programme, etc. Est-ce qu'ils ont une communauté? Est-ce qu'ils ont besoin d'un sponsor aussi? Parce qu'il y a des clubs où ils nous supplient de rentrer dans le programme. Donc aussi, ben, c'est important d'avoir le ressenti d'un club qui n'a pas trop de difficultés et un autre qui a de grandes difficultés pour l'aider. Et puis comme ça, on va sélectionner les clubs vainqueurs. Donc les clubs sont annoncés et on rentre dans ce qui est le deuxième média, qui est le média dans la vraie vie, les équipements qui sont offert au club. Donc là, on rentre dans un deuxième tunnel technologique où le club va pouvoir finaliser la personnalisation de ses maillots, le choix des couleurs, le choix des logos, les numéros dans le dos, les tailles, tout ça est tout automatisé pour qu'à la fin, on puisse leur envoyer leurs équipements directement au club ou dans le réseau local, par exemple, avec un Groupama, on envoie dans les agences et les agences créer un moment de vie avec le club pour se rencontrer. Et puis on rentre ensuite dans ce deuxième média qui est le média où les maillots sont portés à l'entraînement, pendant les matchs, etc. Et puis le troisième média qui est le social média, où les clubs s'engagent à poster du contenu sur les réseaux
Autour des
sociaux une fois
marques.
qu'ils ont ré ré récupéré leurs équipements.
Donc l'idée, c'est que ça fonctionne un peu comme un appel d'offres.
Exactement. Pour le club, c'est un appel d'offres. Aujourd'hui, en fait, c'est la solution qu'on a trouvée pour trouver l'essence même et aller chercher vraiment les clubs qui ont une fois de plus les meilleures histoires et le plus besoin. Peut-être que demain on aura une base de données suffisamment puissante pour pouvoir dire bah bougez pas, on a déjà vos clubs. Mais en fait, pour les marques, cette partie digitale est très intéressante déjà, puisque le faire savoir qu'on vient soutenir le sport amateur, c'est quand même très important aussi pour la marque.
Tout à l'heure, tu nous as parlé d'une opération avec des clubs dans le cyclisme et Groupama, mais il me semble que tu as commencé d'abord par le football et le rugby dans le sport amateur. Déjà, pourquoi s'être orienté d'abord vers ces sports-là et quelle marque tu as pu toucher dans les débuts?
Les sports co, c'était une évidence parce qu'il y a cette sorte d'obligation alors j'appelle ça un uniforme, mais c'est de maillot quoi, porté collectif. Il faut que sur un match, il y a des règles. Sur un match de football fédéral, il y a des règles. Tous les joueurs doivent avoir le même maillot avec des numéros dans le dos identifiables. Je parle de football parce qu'en handball, c'est aussi devant. Le gardien doit avoir un maillot différent. Bref, c'est tellement entre guillemets, facile que et on a foncé là-dessus. On n'a pas encore craqué le modèle pour aller vers des sports individuels. Le tennis, okay. Aujourd'hui, il n'y a pas d'obligation de porter la tenue du club. Donc le joueur peut venir en Adidas, en Nike, en ce qu'il veut. Donc on n'est pas, c'est très complexe d'aller toucher les sports individuels. On finira par y arriver, j'en suis sûr, mais pour l'instant, on n'a pas trouvé le modèle. Et puis donc dans les sports courts, on y est allé très rapidement. Évidemment, le premier, c'était le football. Ça semble assez logique compte tenu du fait que c'est le premier sport en France. On a, en fait, ça allait très vite puisqu'on a démarré l'idée fin 2018. On a mûri l'idée entre nous avec mon Mickaël pendant 3 mois. Et en janvier, on est sorti vraiment sur le marché pour parler de notre offre. Et en avril, on sortait l'opération avec Unibet, donc la première opération au cœur du football. Et pour la petite anecdote, ça a été un franc succès puisqu'au bout d'une semaine, il y a eu tellement de candidatures que l'annonceur nous a demandé de doubler le nombre de clubs sponsorisés.
Okay.
Et ça fait 4 ans qu'ils nous suivent et je ne veux pas spoiler, mais il est très fort probable qu'il y ait une cinquième saison qui arrive dans les semaines à venir.
Mais finalement, ça a été assez rapide d'avoir une grosse marque.
Alors en fait, ça vient essentiellement du fait que je ne sais pas faire autre chose, c'est-à-dire que je parle avec des grosses marques, entre guillemets, depuis 10 ans. Et quand on a commencé ça, instantanément, mon esprit s'est tourné vers ça. Et c'est vrai que je pensais qu'on allait voir plutôt des marques locales, régionales, quand on a eu cette idée. Mmh. Et puis, en fait, finalement, je suis allé vers la facilité, vers ce que je connaissais.
Okay.
On a rencontré Unibet très rapidement. Ils nous ont fait confiance très rapidement. On a rencontré aussi Big Mat. Dans les semaines à peu près où on rencontrait Unibet, on rencontrait Big Mat. Ce qui fait que 2 semaines après, on lançait Big Mat.
Okay.
Donc tout ça est allé vraiment en avril 2019, on avait déjà lancé 2 opérations. Les troisièmes à nous avoir fait confiance, ça a été dans le rugby avec Land Rover.
Okay.
Et donc voilà, en fait, c'est ces annonceurs-là que soit je connaissais un petit peu de mon réseau d'avant, soit parce que forcément mon écosystème d'agence et de régie publicitaire savait que je lançais ça et donc on m'a filé des coups de main. Et puis voilà, le réseau a fait qu'effectivement on s'est tourné vers des grosses marques.
Ok. Ok. Et ensuite, du coup, tu t'es tourné vers le cyclisme avec Groupama déjà. En quoi le cyclisme, ça vous a permis de passer un cap
Alors le cyclisme, c'est vraiment une belle histoire de quiproquo que j'adore raconter. C'est en gros, moi, j'ai démarché Groupama vraiment. Je suis allé au Groupama Stadium à Lyon.
Ok.
Je me suis dit, là, c'est évident. Allons les voir. Allons leur parler de football. Ils m'ont une première fois dit non, désolé, on ne pourra pas travailler ensemble. J'étais un petit peu poussif, quoi, on va dire. J'y suis retourné une deuxième fois. Et puis là, ils m'ont dit, on n'a pas le temps, mais venez nous voir dans 6 mois. 6 mois plus tard, je suis allé les voir, je suis rentré dans leur bureau. Et puis, ils m'ont dit, mais nous, on fait pas de football. Le football, c'est l'identité régionale qui le fait. Nous, notre stratégie, c'est le cyclisme. Est-ce que vous savez faire du cyclisme? J'ai dit, bien évidemment qu'on sait faire du cyclisme. On n'avait jamais vendu un article de cyclisme de notre vie.
Okay.
Mais on s'est dit, si on sait le faire dans le football, Pourquoi pas. Et donc là, ça a été 2 semaines absolument incroyables au sein de la boîte, puisque ça a été l'émulsion. On a dû apprendre un sport, connaître son calendrier qui est totalement différent des calendriers football, handball, rugby et compagnie. Les équipements sont très techniques. Donc voilà, ça a été un vrai volcan d'apprentissage. Ça a été très très vite. Et puis on a proposé notre réponse et on y est allé en fait en sachant que la confiance qu'on avait, c'était que notre techno nous permettait d'aboutir au principal problème qui était de créer la conversation entre le club et la marque. Et c'est là où, finalement, qu'importe le sport, si un annonceur veut faire de la pétanque, qu'il nous demande et on ira, il n'y a pas de problème, on sait faire.
Répondre. Okay.
Et c'est ça qui est. C'est là où on s'est dit qu'effectivement, tu parles de palier, là, on s'est dit, en fait, oui, on peut faire n'importe quel sport. Effectivement.
Okay. Donc, ne pas connaître le sport de base, ce n'est pas forcément une problématique.
C'est mieux de le connaître quand même, Mais,
ouais.
Mais aujourd'hui, on les connaît. Mais si demain, on doit faire du football américain, on ira à la découverte de ce sport et on trouvera des solutions.
Ok. Et est-ce que aussi tu peux nous expliquer quel rôle ont les agences spécialisées dans le développement de votre activité? Je pense à Sport 5, Event Team Group ou Infront Sport.
C'est une relation qu'on est en train de faire grandir de plus en plus parce que les agences, quelles qu'elles soient médias ou spécialisées dans le sport, sont des carrefours de marques pour nous. Donc c'est évidemment une plus grande facilité d'aller voir un Sport 5, de lui présenter ce qu'on fait, de lui dire si jamais vous avez un annonceur qui pourrait être intéressé par du local, par de la complémentarité avec le sport pro, par du RSE, de lui parler de nous. Et donc forcément, bah, eux, comme des agences comme Infront, comme Avasplay, comme Sport5, brassent des dizaines de clients. Et forcément, si à un moment ils pensent à nous, bah, c'est une opportunité plus facile en fait. Finalement, c'est du travail qui est un petit peu mâché. Donc c'est évidemment une relation qu'il faut faire grandir. Et notre objectif à nous, c'est de leur faire comprendre que apporter ce soutien au sport amateur, finalement, pour les marques, c'est presque essentiel aujourd'hui, et que les marques, elles se doivent de jouer leur rôle sociétal. Donc voilà, nous, on essaie de faire grandir cette relation avec les agences en ce sens.
Ok. Et bah, tu mets un point d'honneur aussi sur la partie RSE. Comment tu défends cet aspect-là auprès des marques?
Je pense qu'aujourd'hui, les marques ont remplacé en quelque sorte les lieux de vie qu'on avait avant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les marques sont prépondérantes dans notre quotidien. On a tous notre téléphone d'une certaine marque avec une pomme dedans qu'on connaît. On passe notre vie sur un ordinateur. Notre quotidien, finalement, c'est la confrontation aux marques. Et ces marques-là, elles ne peuvent pas nier le fait que si elles profitent autant de nous, en récupérant notre data, en récupérant notre argent, etc. Il faut qu'elles rendent aussi ça à la société. Et si aujourd'hui la société est articulée autour des marques, et c'est une vérité, il faut que les marques rendent l'appareil à la société. Donc c'est en ce sens que nous, on apporte une de ces solutions. Et j'ai vraiment pas la prétention de dire que c'est la solution, parce qu'il y a d'autres problèmes bien plus importants que le sport à régler. Mais en tout cas, nous, on essaie de régler le problème du sport, on essaie d'accompagner le sport. Et en fait, pourquoi à nos yeux, le sport est hyper important, c'est qu'il représente un des derniers lieux de vie où on va tous se retrouver. C'est-à-dire que demain, votre enfant veut faire du judo, ben vous allez vous retrouver à la salle de judo à côté des parents. Vous êtes peut-être facteur, les parents à côté sont peut-être avocats, notaires. On va jouer au football avec le médecin qui joue avec le policier qui joue avec le monsieur à la mairie. Et en fait, tous ces gens-là, finalement, il reste très peu d'écosystèmes aujourd'hui locaux où on va pouvoir les retrouver ensemble, quelle que soit leur strate sociale, quel que soit leur métier. Et donc en fait, c'est en ce sens qu'on a envie de le faire vivre, ce sport amateur,
Okay.
parce qu'il représente des valeurs qui sont ultra puissantes et qui vont bien au-delà du sport à nos yeux, quoi.
Ok. Aussi, quand on parle d'RSE, forcément, il y a responsabilité sociale et on pense à égalité. Et par exemple, dernièrement, vous avez fait une opération autour du sport féminin. Donc, est-ce que tu peux nous parler de cette opération?
Ah ouais, ça a été une opération vraiment vraiment cool pour le coup, parce qu'on a travaillé avec Back Market. Back Market qui a une consommation essentiellement masculine et qui voulait du coup justement, et c'est là où c'est important, il y a l'enjeu marketing qui peut rejoindre l'enjeu sociétal, qui avait une volonté d'aller toucher un peu plus les filles. Et puis, quand on a commencé à parler avec eux, ils avaient cette volonté de dire, si nous on vient, on ne viendra que sur du sport féminin. Et donc, pour ne pas, entre guillemets, se fermer de porte, on s'est dit que le multisport était une vraie valeur ajoutée, parce que bah, que le foot, c'est excluant. Donc, on voulait vraiment aller sur tous les sports. Et donc, du coup, on a lancé une idée qui vient du studio de Back Market, que moi, personnellement, j'adore, la Champion League, qui consiste vraiment à recruter 200 équipes de football, handball, rugby, volley, et foot, hand, rugby, volley, basket, les cinq sports majeurs collectifs en France, 200 équipes féminines qui sont sponsorisées à travers la France avec un équipementier Nolt français, éco-responsable, qui fait ses maillots à partir de plastique recyclé dans les océans. Et donc effectivement, là, on est sur une opération 100% féminine, et on a aussi eu énormément de candidatures. Donc il y a la place aussi pour aller dans le sport amateur féminin. Alors si certains sports comme le rugby sont plus complexes à aller chercher parce qu'il y a moins de clubs, il y a des sports qui sont très féminins. Donc c'est aussi vraiment vraiment intéressant de les soutenir. Et il y a plein d'initiatives pour soutenir le sport féminin de plus en plus, et qui permettent aussi de donner accès au sport féminin. Parce que une des difficultés dans le sport féminin aujourd'hui, on le voit par exemple dans le football, c'est souvent des trucs très très terre à terre, mais c'est la distance à parcourir pour aller trouver un club. C'est le niveau quand on va arriver dans un club, et c'est pouvoir trouver un club où on va pouvoir avoir des filles qui jouent à son niveau, mais comme il n'y a pas beaucoup d'équipes. Donc voilà, plus on va soutenir, plus on va médiatiser ce sport féminin, plus il y aura de pratiquantes et plus on va pouvoir casser ces barrières-là.
Est-ce que toi, tu as le sentiment que ça dépasse la tendance marketing au final? Est-ce qu'il y a vraiment cette volonté de resserrer l'écart?
Ah, est-ce que sociétalement parlant,
Exactement.
je sais pas. Non, non, honnêtement, je pense pas. C'est une vraie tendance marketing. on voit que la pratique est quand même aujourd'hui très très loin, de par les freins que j'ai évoqués. Mais peut-être que pour une fois, le marketing peut servir à
Servir au
ça.
développement.
Et donc, si c'est ça, tant mieux en fait. Mais effectivement, on le voit que dans la pratique, il y a encore un nombre, peut-être, alors, je sais pas si c'est insuffisant, mais en tout cas, on voit que dans les sports co, c'est pas le cas dans tous les sports co, il y a des sports co qui sont très féminins. Mais effectivement, plus on va pouvoir donner de moyens au sport féminin de se développer, bah, plus ce sera bon. Et si c'est le marketing qui doit le faire, bah, je trouve ça plutôt cool en fait.
Ok. Et du coup, en fin d'année, là, vous avez annoncé une collaboration de grande ampleur avec Uber Eats, qui est déjà très, très présent dans le monde du sport professionnel. Sur quel type d'activation vous allez collaborer? Tu nous en as
Alors,
parlé un peu
Uber
tout à
Eats,
l'heure.
on a lancé en fin d'année, avant la Coupe du Monde, une opération avec eux. C'était leur volonté, c'était pas d'aller vers le sport en tant que tel, c'était plutôt de venir proposer au club une expérience totalement novatrice. Et on a réfléchi avec eux pour en fait leur faire bénéficier d'un maillot Third, un
Ok.
maillot qui n'existe absolument pas dans un club amateur en temps normal. Et donc on est venu vraiment avec une sorte d'aspect mode. Et en fait, la proposition qui a été faite, c'est de dire bon, on va envoyer un designer dans 50 clubs, créer 50 maillots uniques qui vont pouvoir porter pour les soirs de grands matchs, les soirs de gala, les grands tournois, les choses comme ça. C'est pas nécessairement, ils n'ont pas l'obligation de le porter toute la saison, ils en font absolument ce qu'ils veulent. Mais ça a vocation à être un maillot qui sort vraiment du lot et qui apporte vraiment quelque chose d'hyper flashy, d'hyper tendance pour le club. Et donc, partant de ce constat-là, nous, on a lancé l'opération avec eux, on a sélectionné les 50 clubs qui vont pouvoir en bénéficier. Et au moment où on se parle, le designer le Bled FC, donc, prend ses rendez-vous avec les clubs, écoute les briefs, leur propose des designs, on les valide avec le client et avec les clubs. Et on aura normalement un reveal de ces maillots en mai. J'en sais pas beaucoup plus, mais en
Ok.
tout cas, normalement, ce sera en mai à Paris.
Ok. Bah, est-ce que ce type d'opération qui s'apparente aussi à du lifestyle, est-ce que ça permet de développer du merch pour ces clubs-là, au-delà du fait de les porter
Ben, c'est exactement ça, puisque par exemple, on a pris deux clubs ambassadeurs, le club de Laon et l'US Laon qui est dans le nord, et le club de Cachan, le CO Cachan qui est
Ok.
en banlieue parisienne. Et ces clubs-là, comme ils sont ambassadeurs, ils sont d'emblée dans le programme de l'opération. Et en plus de ça, on leur offre 20 maillots. Donc y a le programme, c'est deux équipes bénéficient de leur kit maillot short chaussettes pour les matchs, et ils reçoivent en plus 20 maillots pour en faire absolument ce qu'ils veulent. S'ils ont envie d'en faire du merch, s'ils ont envie d'en faire gagner dans une tombola,
Ok.
vraiment, ils en font absolument ce qu'ils veulent. Et effectivement, c'est quelque chose, nous, c'est une tendance qu'on voit un petit peu, on nous remonte des fois, des clubs nous demandent d'acheter des maillots supplémentaires, parce qu'il y a des supporters qui
Ah,
veulent
qui veulent
le
racheter le
maillot,
maillot.
parce qu'effectivement, bah, si le maillot est canon, bah, ça va marcher. Mais même un maillot simple, floqué par un gros sponsor, ça
Ok.
détonne quand on a un petit village. Donc il y a comme ça des tendances qui montrent que ça peut se transformer en merch, ça peut être une valeur ajoutée pour le club.
Ok. Mais c'est pas forcément de base pensé pour.
C'est pas pensé pour, mais ça peut le devenir.
Ok.
Voilà, ça peut le
Ok.
devenir si ça plaît, si ça fonctionne. Après, il y a aussi tout un tas d'étapes logistique, fabrication, production qui sont complexes.
Là,
On est
c'est
en
pour ça
plein dedans,
aussi.
assemblage.
C'est pour. Ok.
Mais c'est la réalité, c'est que oui, ça peut le devenir. Ça peut le devenir sans problème. En fait, l'objectif de tout ce qu'on fait, c'est avant tout de faire en sorte que le club puisse trouver de nouvelles solutions. Si demain, une des solutions qu'on peut lui apporter pour se sauver, entre guillemets, c'est de créer du merch et de le vendre, on les aidera en ce sens.
Ok, je vais te parler un peu des JO 2024. J'imagine que c'est une belle vitrine pour le sport amateur, justement. Donc, quel type d'activation, justement, vous prévoyez par rapport aux JO 2024?
Alors, on a la chance d'avoir des annonceurs qui reviennent tous les ans. C'est un truc de fou, avec Unibet, voilà, spoiler alerte, mais normalement on devrait avoir bientôt la cinquième saison. Donc en fait, comme ça, on n'a pas encore réussi à creuser un modèle où on va faire signer comme un club pro sur 3 saisons. On re-signe tous les ans.
Ok.
Tous les ans. Donc aujourd'hui, parler de 2024, c'est presque ultra prématuré pour moi parce que j'ai pas de visibilité sur
D'accord.
nos annonceurs. Par contre, nous, ce qu'on encourage vraiment auprès du marché, c'est de dire, mais en fait, soyez partenaire des JO, évidemment, c'est et on n'entendra jamais mettre en compétition le sport pro, le sponsoring du sport pro et le sponsoring du sport amateur. C'est ouais. Évidemment complètement différent, des valeurs complètement différentes, de la médiatisation complètement différente. Par contre, il y a une vraie complémentarité. Et ce qu'on essaie d'expliquer, c'est que venir soutenir le sport amateur dès maintenant, pendant une année, et puis pour ceux qui sont venus avant pendant plusieurs années, pour monter en puissance autour des JO, c'est quelque chose de vraiment, vraiment, vraiment important parce qu'en fait, ça permet de légitimiser aussi la place de la marque. Alors, il y a des marques qui sont présentes depuis 20 ans. Je pense à une marque avec qui on ne travaille pas pour l'instant, c'est Orange, qui font ça très bien, que ce soit dans l'amateur, dans le pro, et ils n'ont pas besoin de nous. Ils font le travail très bien, mais il y a des marques qui n'ont pas forcément cette culture-là et qui peuvent avoir besoin de nous. On travaille aujourd'hui, alors c'est confidentiel, je ne peux pas encore en parler, mais on travaille avec une marque qui veut devenir partenaire de la Coupe du Monde de rugby 2023, c'est juste avant les JO, et qui justement veut, dès les prochaines semaines, commencer à venir s'impliquer dans le rugby amateur pour arriver à la Coupe du Monde avec une sorte de légitimité.
Ok, ok, super. Aujourd'hui, on a près de 100 000 sportifs amateurs issus de plus de 5 000 clubs qui sont sponsorisés comme des pros. Donc, quels sont les objectifs à court, à moyen et à long terme finalement pour Act for Sport ?
Le premier objectif, clairement, c'est que ça devienne un réflexe pour les directions marketing.
Ok.
Ça va être difficile, on est très très loin, le téléphone il sonne pas toujours encore tout de suite, c'est nous qui appelons, mais c'est vraiment l'objectif. L'objectif c'est de faire en sorte que finalement quand on pense rugby, on se dise le rugby il se construit en plusieurs strates. Il se construit en local, il se construit en national, il se construit à l'international. Typiquement Land Rover c'est exactement la stratégie. Ils sont 75 concessions en France, 75 clubs sponsorisés autour de chacune des concessions. Okay. Ils sont partenaires de la Ligue et ils sont partenaires de la Coupe du Monde. Donc ils ont vraiment le local, le national et l'international. Donc nous, c'est le premier souhait qu'on veut, c'est faire en sorte que ça devienne une sorte de réflexe. Le deuxième souhait qu'on veut, c'est évidemment chercher à toucher un maximum de joueuses et joueurs. C'est faire en sorte que demain, on n'a pas écrit stratégiquement de chiffres, mais oui, ce serait que demain la moitié des clubs français puissent obtenir un sponsor grâce à nos actions et faire en sorte que si c'est devenu un réflexe dans la tête des dirigeants marketing, ça puisse avoir des retombées directes sur les terrains et qu'il y ait que finalement le maillot de match ne soit plus du tout une dépense pour le club.
Ok, c'est une super ambition. Est-ce que tu aurais un mot peut-être pour conclure ce podcast ?
Bonne année 2023. non, mais surtout une année où il va y avoir beaucoup de mouvements et dans notre activité où ça bouge très vite, ça bouge énormément. Donc j'espère que ce sera une année qui va fonctionner. Et puis, si je devais parler un peu plus sport pro, je dirais que 2023, ça reste quand même une belle Coupe du Monde de rugby qu'on attend chez nous. Donc on croise les doigts pour l'équipe de France.
On croise les doigts pour l'équipe de France. Merci à toi en tout cas d'avoir répondu présent. Merci à tous ceux qui nous suivent et qui suivent ce podcast. On se retrouve pour un prochain numéro. À bientôt.